C'est une école qui vit peut-être ses dernières heures. L'ENA va être supprimée et remplacée par un autre établissement. C'est une information Europe 1. Emmanuel Macron doit l'annoncer cet après-midi. Lui qui avait promis cette suppression il y a 2 ans lors de la crise des Gilets jaunes. L'ENA, c'est une école qui était de plus en plus critiquée, attaquée au fil de ses 75 années d'existence. Elle est devenue le symbole d'une élite qui serait déconnectée de la réalité. Comment cette image s'est-elle construite et à quoi correspond-elle réellement? Et d'ailleurs, pourquoi cette école, l'ENA, est-elle encore attractive? C'est à ces questions et bien d'autres que répond un documentaire éclairant qui sera diffusé demain après-midi sur Public Sénat. Bonjour Alix Etourneau.
Bonjour.
Bonjour Émilie Lançon.
Bonjour.
C'est à vous deux qu'on doit ce documentaire. ENA, pourquoi tant de haine? Question à toutes les deux, vous avez fait l'ENA?
Non.
Non.
Non. Vous avez fait quoi?
Sciences Po. J'ai fait des études d'histoire, puis de sciences politiques.
Et ensuite de journalisme.
Et de journalisme.
Et de journalisme aussi ensuite.
Alors, nous ne savions pas quand nous vous avions invité. C'est une info Europe 1, je l'ai dit, qui est tombée ce matin très tôt. Emmanuel Macron devrait annoncer la suppression de l'ENA et surtout la création d'une nouvelle école. Tout cela dans le cadre d'une réforme de la formation de la haute fonction publique. Il doit le faire cet après-midi. Est-ce que vous êtes surprise?
Totalement. Moi, je trouve que l'ENA ne méritait pas ça et j'ai l'impression d'être dans un mauvais feuilleton. Voilà, un coup on annonce sa suppression, un coup on la supprime plus, un coup on dit qu'elle est formidable et puis maintenant de nouveau on la supprime. En fait, je trouve que c'est incompréhensible.
Émilie Lançon.
Oui, pareil. En fait, on ne s'attendait pas en travaillant sur l'ENA que ce soit aussi palpitant, parce qu'on a l'impression d'être dans un film d'action. On supprime pas. En fait, il se passe plein de choses pendant cette année. Au printemps 2019, Emmanuel Macron annonce qu'il supprime l'ENA. Puis finalement, bon, on sent qu'il y a quand même un revirement. Le patron de l'école, Patrick Gérard, qui se bat pour sauver son école, qui propose plein de réformes, parce qu'ils sont conscients des problèmes. Ces problèmes, vous les avez cités. Entre soi, endogamie sociale, conformisme, école tremplin pour faire carrière en politique ou dans le privé. C'est tout ça que depuis 50 ans, qu'on reproche à l'ENA. Mmh. Alors, c'est en partie vrai, mais en partie. Donc, Emmanuel Macron, qui lui-même a fait l'ENA, qui est le produit de ça, qui en plus est quelqu'un qui n'est pas resté longtemps dans la haute administration, puisqu'il est parti pantoufler chez Rothschild.
Je le précise, il est la promo Senghor en 2004, Emmanuel Macron.
Sorti 2004, ça doit être... Ouais. Oui, parce que c'est 2002, il était au moment du 21 avril. Et donc, lui, il sait aussi que tout ça, cette image un peu de d'énarque qui est assez négative, pour plein de raisons, et c'est ce qu'on tente d'expliquer dans le film, du col à la peau. En pleine crise des gilets jaunes, il annonce qu'il veut supprimer l'ENA. Et puis finalement, il fait machine arrière. Et là, nouveau rebondissement, on s'y attendait pas.
Moi, je trouve que c'est extrêmement démagogique, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qu'on reproche à l'État, hop, l'État tape sur l'ENA, un peu pour se défausser. La crise des Gilets jaunes, c'est un exemple typique. Les Gilets jaunes n'ont jamais demandé la suppression de l'ENA, ça n'a jamais été dans leur programme. Et pourtant, on leur a donné cet os à ronger, peut-être on a l'impression qu'on a voulu les calmer. Mmh. Aujourd'hui, c'est la crise vaccinale, ça ne fonctionne pas bien. On tape sur l'État et l'État se défausse sur l'ENA. Pourtant, c'est bien l'État qui est responsable de la mise en place de la vaccination en France. C'est pas les énarques.
Détail technique, votre documentaire passe après-demain sur Public Sénat à 21h, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que vous avez le temps de changer la fin?
Oui, on va tout faire.
On va intégrer ce qui va être dit cet après-midi, bien sûr.
D'accord. L'ENA est très critiquée, on l'a dit, mais également attractive. Et vous révélez, je ne savais pas, qu'aujourd'hui, l'ENA n'a jamais autant reçu de demandes de candidature qu'au cours de ces 10 dernières années.
Oui, c'est vrai. C'est vrai pour le concours externe, c'est-à-dire les étudiants qui présentent l'ENA. Le directeur de l'ENA nous a expliqué qu'effectivement, il y avait un regain en faveur de l'ENA. On pense, avec le directeur de l'ENA, on en a pas mal discuté, c'est aussi les conséquences des enjeux de la crise sanitaire, les conséquences des enjeux environnementaux. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire bouger les choses et qui se disent, on va faire bouger les choses de l'intérieur. En fait, ce sont des gens qui ont le sens du collectif et en ce sens, ils sont assez proches de la génération qui était à l'ENA au tout début, en 45.
Faire bouger les choses, il y a de nombreuses personnes pourtant très critiques à l'encontre de l'ENA qui sont opposées à sa suppression. C'est le cas de Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, qui n'a pas fait l'ENA. C'est également le cas d'un des anciens élèves de l'ENA, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, il vous l'a dit.
Je ne pense pas que la suppression de l'ENA soit la solution. Parce que qu'est-ce qu'on mettra à la place? Comment recrutera-t-on les hauts fonctionnaires? Encore une fois, si l'État n'a plus besoin d'être servi, il n'a plus besoin de serviteurs, à ce moment-là, on peut aller à la sortie des business schools recruter ceux qui feront les retours sur investissement le plus rapide.
Jean-Pierre Chevènement pose une bonne question. L'important, ce n'est pas tant la suppression de l'ENA, annoncée théoriquement aujourd'hui, cet après-midi, par le chef de l'État, que la création de l'école qui va le remplacer. On va faire de la prospective, mais je suis obligé de vous demander par quoi cela va être remplacé, par quoi cela devrait-il être remplacé, selon vous ?
Déjà, c'est une question qu'il faut poser à Emmanuel Macron,
Bien sûr.
Que là, j'avoue qu'on est complètement perdu.
Tout le monde.
Donc, on ne sait pas. Il y a eu un rapport, qui est le rapport Thiriez, qui proposait la création d'une espèce de d'usine à gaz. Je ne sais pas ce qui va en sortir cet après-midi. Là, ce qu'on avait compris des dernières annonces de la ministre de l'Éducation nationale, que c'était plutôt un élargissement du recrutement de l'ENA pour faire en sorte que les élèves qui intègrent l'ENA ressemblent plus à la société à laquelle ils appartiennent, ce qui était une excellente chose.
Que ce ne soit pas seulement des fils de grands bourgeois du 6e arrondissement parisien.
Exactement, pour lutter contre l'élitisme qu'on reproche à l'ENA, en fait.
Vous-même, comment vous imaginez ça, Émilie Lançon, si tant est que ce n'est pas ce qu'il faille faire que demander l'avis de Mme Irma?
Oui, c'est un peu difficile de dire. Ce qu'on pense avoir compris, c'est que quand même, et c'est ce qui est étonnant, c'est que ça faisait partie des propositions de Patrick Gérard. Il voulait noter les élèves plus seulement sur leur qualité scolaire, mais aussi sur leur manière de se comporter, sur leurs compétences réelles. Il voulait s'intéresser à des problèmes plus contemporains, comme l'écologie, que les élèves soient plus aux prises avec le monde. Donc tout ça, certainement que ça fera partie du package. En fait, après, je crois que le problème, il est aussi symbolique, c'est-à-dire que l'ENA, en grande partie à tort, a une mauvaise image. Voilà. Et donc, il faut supprimer le nom. On a l'impression qu'en supprimant le nom, on va supprimer le problème. Mais finalement, je ne suis pas persuadée que la nouvelle école sera aussi différente de la précédente.
L'avenir le dira. Le chef de l'État, en tout cas, veut casser les logiques de grand corps, celles des rentes à vie. Vous en parlez dans votre documentaire. Ce n'est pas la première fois qu'un président veut s'y attaquer. C'est ce qu'a voulu faire Nicolas Sarkozy. Et c'est Rachida Dati, son ancienne garde des Sceaux, qui l'explique dans votre film.
Nicolas Sarkozy trouvait très injuste et très inégalitaire qu'une personne qui a eu un concours à 25 ans, à 22 ans, qui sorte le premier de l'école, plus jamais sa carrière n'est remise en cause. Il peut aller dans une grande entreprise, échouer et revenir à la Cour des comptes, ou à l'inspection des finances ou au Conseil d'État, sans qu'on puisse lui demander des comptes. Il peut même échouer en étant patron d'une grande administration centrale et revenir dans son corps d'origine pour mieux repartir. C'est-à-dire qu'à la limite, finalement, c'est que ces grands corps vous redonnent une virginité pour mieux repartir si vous aviez échoué.
Alors est-ce que le problème de l'ENA n'est pas davantage le classement que l'enseignement lui-même ? Question, réponse avec Alix Etourneau et Émilie Lançon. Elles sont journalistes toutes les deux, elles n'ont pas fait l'ENA, elles sont dans Culture Média. A tout de suite.
Europe 1, Culture Vandel.
En direct, en compagnie, il faut que je retrouve toutes mes notes, en compagnie d'Alix Etourneau et Émilie Lançon, j'ai retrouvé mes notes, merci. L'ENA, pourquoi tant de haine ? C'est après-demain ce documentaire sur Public Sénat à 21h. Ce qui est visé, ce qu'on entendait là dans les propos de Rachida Dati, c'est davantage les classements de l'ENA que l'enseignement qui est professé là-bas lui-même. Le classement de sortie et les grands corps, de quoi s'agit-il exactement, Alix Etourneau ?
En fait, l'ENA, elle a deux problèmes. Elle a un problème à l'entrée et un problème à la sortie. À l'entrée, c'est le recrutement qui n'est pas assez large, on l'a évoqué. Et ensuite, la sortie, c'est effectivement le concours de sortie. D'un côté, le classement, c'est la moins mauvaise des solutions parce que ça évite le népotisme qui existait avant la création de l'ENA, où on entrait dans un grand corps parce qu'on était le fils d'eux, ou etc. Ce qu'on peut reprocher au classement de sortie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la botte, c'est l'accès direct au grand corps. Ça veut dire que à peu près les 12 premiers du classement vont pouvoir choisir entre la Cour des comptes, le Conseil d'État et l'inspection des finances. Et ce qui choque les gens, c'est que des élèves qui ont en moyenne, 27, 20, 26 ans, vont arriver dans ces grands corps et vont se retrouver assez rapidement bombardés à des postes de responsabilité sans avoir eu une forme d'apprentissage avant. Ouais. Et donc, du coup, ça choque énormément. Donc, en fait, c'est cette réforme-là que Nicolas Sarkozy avait tenté au moment où il était président.
Il l'avait tenté, mais il n'a pas réussi.
Non, en fait, il y a beaucoup de présidents qui ont tenté de réformer l'ENA, surtout sur la question du classement de sortie, parce que l'autre problème aussi, c'est que pour ceux qui rentrent dans les grands corps, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ils peuvent ensuite partir, par exemple, à un moment donné dans le privé, et revenir ensuite dans leur corps. Il y a toujours une place qui les attend bien au chaud. Et je crois que c'est ça, dans un monde où il y a quand même de plus en plus de précarité, qui choque aussi profondément les gens. Et quand les différents présidents de la République ont essayé, donc Jacques Chirac a essayé, Nicolas Sarkozy, François Hollande, en fait, à chaque fois, ils se sont heurtés, finalement, à une mobilisation des grands corps qui ont fait en sorte de torpiller les réformes ou de faire des réformes à minima pour que cet accès direct aux grands corps après l'ENA puisse perdurer.
Voilà. Et là, je rappelle un souvenir de citoyen. Depuis 1981, depuis que je vote, j'entends tout le temps les candidats à la présidentielle dire assez d'énarques dans les ministères, assez d'énarques à l'Élysée, et il y en a toujours autant.
Moi, ça, c'est très démago, hein. C'est du populisme quand on dit ça. Parce que, inévitablement, les énarques, ce sont quand même des grands serviteurs de l'État qui ont le sens de la chose publique. Et il paraît assez logique que certains veuillent s'engager un peu plus loin, aller en cabinet, aller en politique.
Alors, ces critiques arrivent dans un contexte un peu particulier. Dans les années 60, l'ENA et celles et ceux qui en sortent se rapprochent du pouvoir. Le discours change. Exemple avec ces témoignages d'élèves de l'école, extrait d'un reportage que vous avez exhumé de 1965. À l'occasion des 20 ans de l'ENA.
Est-ce que vous avez l'impression que les élèves de l'ENA auront une grande responsabilité dans la France de demain ?
C'est à peu près certain. Il n'y a qu'à voir la composition du dernier gouvernement et en particulier regarder l'origine des différents directeurs de cabinet.
Je crois que dans tout élève de l'ENA, il y a un idéaliste au départ et il y a aussi un ambitieux.
Et si l'on demandait quels sont les mobiles à les numéroter en mettant le pouvoir, l'argent, le succès personnel, etc., le pouvoir serait sans doute placé au premier rang.
Et ce système de classement de sortie des grands corps, c'est déjà critiqué depuis les années 60, ce discours décomplexé. Est-ce que c'est un dévoiement des idéaux d'origine de l'ENA créés juste après la fin de la dernière guerre ?
Oui, un petit peu, parce qu'en fait, il faut bien voir que quand l'ENA est créée, d'abord, c'est un vieux rêve républicain qui existe quasiment depuis la fin du XVIIIe siècle. Il y a eu plusieurs tentatives avortées. Et puis arrive l'expérience de Vichy. Et là, on sait que beaucoup de hauts fonctionnaires se sont compromis, ont soutenu le maréchal Pétain. Et le général de Gaulle et Michel Debré veulent rompre avec ça. Il leur faut une administration propre et intègre, loyale, sur laquelle ils puissent compter, et profondément républicaine. Donc l'ENA, ça va d'abord être l'école de la République. C'est une école, l'école de la République, parce qu'elle va recruter de façon méritocratique, c'est-à-dire qu'on rentre à l'ENA parce qu'on est bon, et aussi parce qu'elle va porter haut et fort les idéaux de la République. Et puis petit à petit, c'est difficile de savoir vraiment ce qui se passe, mais on sent que les choses se grippent. Et je suis contente que vous ayez mis cet extrait, parce qu'on est 20 ans après l'ENA, et là on sent que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, c'est une autre génération. La première génération d'énarques, ce sont des résistants, d'anciens déportés, des gens qui vont rebâtir la France. Et puis là, on passe à autre chose, des gens qui sont plus préoccupés par leur intérêt particulier. Et je dis juste un dernier petit truc, c'est une des pépites, en fait, que nous a permis de trouver l'INA, qui est notre producteur, parce qu'en fait, on arrive, c'est une espèce de... On nous donne comme les clés d'un coffre, on sait qu'il va y avoir des choses dedans certainement merveilleuses, et on les trouve, comme là par exemple.
Voilà, l'ENA, Alina. On était dans les années 60, on va passer aux années 70, le pouvoir, les énarques qui arrivent en force, c'est en 74, c'est l'un de ceux qui est élu président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Il s'entoure d'énarques, j'en parlais, à commencer par son premier ministre Jacques Chirac, moment charnière, selon un autre élève de l'ENA, François Hollande.
C'est là où on a le sentiment que l'école a changé de vocation. Elle était faite pour former des administrateurs, et on découvre qu'elle est faite pour former des ministres, des premiers ministres et même des présidents de la République. Ce qui d'ailleurs est une vision déformée de l'ENA, parce que c'est vrai que ça a eu cette conséquence, mais malgré tout, les élèves de l'ENA, ils ne sont pas tous présidents, premiers ministres, ministres, même à cette époque. Beaucoup sont des administrateurs qui servent l'État et qui n'ont pas d'engagement politique particulier.
On peut parler des années 80, parce qu'on les qualifiait comme ça d'années fric. Les énarques sont de plus en plus présents dans les sphères du pouvoir, le pouvoir politique autour de François Mitterrand. Et c'est une nouveauté, le pouvoir économique. Que se passe-t-il alors avec les énarques dans les années 80, Alix Letourneau ?
Les années 80, c'est l'apogée du néolibéralisme. C'est Thatcher, c'est Reagan, ce sont les années fric, c'est Bernard Tapie, qui est l'idole de toute une génération. Et les énarques, ils sont comme les autres, ils appartiennent à leur époque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on observe une certaine évolution de l'ENA avec des gens qui osent affirmer, comme Manuel Muntz dans le reportage, oui, j'ai fait l'ENA, mais j'avais pas l'intention de passer ma vie à la vouer au service public. J'avais l'intention de ce qu'on appelait pantoufler et partir dans le privé.
Indépendamment de sa suppression annoncée, est-ce que l'ENA, si maintenant on essaie d'être objectif sans que ce soit possible sur 75 ans, a rempli sa mission initiale ? Comment vous le voyez, Émilie Lançon ?
Bah finalement, plutôt oui, parce que sa mission, c'était de former des gens compétents et loyaux. Je pense que c'est le cas. Et que finalement, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'une grande majorité des énarques sont des gens dont on n'entendra jamais parler. Ce sont des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, dans des bureaux, qui souvent travaillent beaucoup, pas toujours pour des salaires mirobolants. Et que finalement, c'est un tout petit nombre, toujours les mêmes, souvent ceux qui sont passés par les grands corps, qui concentrent un peu cette mauvaise image, parce que ce sont des gens soit qui pantoufent, soit qui sont partis faire de la politique. Autre chose que finalement ce pour quoi ils étaient destinés. Donc si on regarde au niveau global, je ne pense pas que l'ENA ait démérité.
Alix Etourneau.
Je suis tout à fait d'accord avec Émilie, parce que si on regarde les chiffres, les énarques qui partent en politique, c'est 3% des énarques, et les énarques qui partent définitivement dans le public, c'est-à-dire qui ne font pas... Dans le privé, pardon, c'est-à-dire qui ne vont pas faire d'aller-retour, c'est 5%. Donc c'est une infime minorité, sauf que c'est une minorité visible. Et du coup, on a tendance à associer l'ENA à ces gens-là. La réalité, c'est que 90% des énarques, ce sont des gens qui font super bien leur boulot, qui sont dans des administrations centrales, qui sont sous-préfets, et dont vous n'entendrez jamais parler.
Comment en est-on arrivé à la suppression de l'ENA annoncée cet après-midi par le président Macron? Vous pouvez le comprendre. En regardant l'ENA, pourquoi tant de haine? Il y aura une nouvelle version après-demain sur Public Sénat à 21h. Je le précise, prenez cet entretien en cours de route parce qu'on a appris ce matin que l'ENA allait être supprimée. Comme le documentaire passe après-demain, vous allez retoucher et refabriquer une nouvelle fin. Vous, vous êtes les autrices de ce documentaire. Alix Etourneau, Émilie Lançon, merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.